Nous prions. Seigneur, nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce beau temple qui nous est si cher pour fêter le premier dimanche qui annonce ton avènement parmi nous. Envoie dans cette attente ton Esprit Saint sur notre assemblée, que nous puissions recevoir dans nos cœurs les textes qui vont être lus, à la fois millénaires et intemporels. Que nous en saisissions la portée dans cette joie de savoir que tu viens, et en toute humilité. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Nous lisons dans Ésaïe, au chapitre 2, une sélection de versets. Ce que vit Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs. De leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée, nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Car il y aura un jour pour le Seigneur, le Tout-Puissant, contre tout ce qui est fier, hautain et altier, ce qui sera abaissé et qui sera abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hautains et altiers, et contre tous les chênes du Bashan, contre toutes les montagnes hautaines et contre toutes les collines altières, contre toutes les hautes tours et contre toutes les murailles inaccessibles, contre tous les vaisseaux de Tarsis et contre tous les bateaux somptueux. L'orgueil des humains devra plier, les hommes hautains seront abaissés, et ce jour-là, le Seigneur seul sera exalté, et toutes ensemble les idoles disparaîtront. Laissez donc l'homme, ce n'est qu'un souffle dans le nez, que vaut-il donc ?
Notre deuxième lecture se trouve dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 13. Après un passage sur la nécessaire soumission aux autorités établies, Paul rappelle le commandement d'amour mutuel, exhorte à être prêt pour la venue du Christ. Nous lisons dans Romains 13 les versets 8 à 14. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la foi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire vos convoitises. Notre dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24. Nous sommes deux chapitres avant l'arrestation de Jésus qui le conduira à la mort. C'est une partie de l'Évangile où Jésus annonce la fin des temps. Juste avant le passage que nous allons lire, Jésus parle des signes qui accompagneront la fin. Nous lisons en Matthieu 24, les versets 37 à 44. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Seigneur, sanctifie-nous par la vérité. Ta parole est la vérité. Amen.
Cette semaine, il y a deux jours, une personne parmi vous m'a demandé comment vivre de manière engagée ce temps de l'Avent. Il y avait dans la question le désir, le besoin peut-être de faire quelque chose de concret. Comment est-ce que liturgiquement l'Avent, ça se décline dans nos vies ? À Pâques, il y a le carême, et puis l'Avent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai une réponse un petit peu, protestante, c'est-à-dire que, en fait, nous n'avons pas grand-chose de concret en tant que réformés, si ce n'est de faire de la place pour accueillir. Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut encore le décliner. Faire de la place pour accueillir, se rendre prêt à accueillir Jésus-Christ qui vient et qui sera l'avènement total et accompli de la seigneurie de Dieu sur la terre. Avant vient du latin adventus, qui veut dire avènement. Donc c'est cet avènement-là que nous attendons. Cette venue, ce retour du Christ, qu'on appelle la parousie, eh bien, nul ne sait quand il viendra. Soumi, quand on a eu notre assemblée paroissiale extraordinaire, nous a dit peut-être que Jésus reviendra avant 2035. On l'a prédit bien des fois en 2000 ans, mais nous l'attendons. Il s'agit donc d'être en état de veille pour être trouvé par le Seigneur selon sa volonté au moment où il viendra. Et c'est pas facile parce que le temps dure. Eh bien, c'est cet état de vigilance que nous allons visiter ce matin, cet état de vigilance qui est le même terme en grec que le mot « veiller » ou « rester éveillé ». C'est une attitude spirituelle de présence à soi, déjà, présence à soi, de présence aux autres et de présence à Dieu, pleinement. C'est-à-dire que c'est un état qui signifie que on est, et qu'on est trouvé par le Seigneur, pleinement en vie. Ni endormi, ni mort, mais pleinement en vie, spirituellement. D'ailleurs, si vous entendez bien, dans notre langue française, dans le mot « vigilance », nous entendons « vie ». Alors, pour ce qui est de l'aspect concret, eh ben, je suis allée chercher du côté de la Fraternité des Veilleurs. Est-ce que certains parmi vous ce matin connaissent la Fraternité spirituelle des Veilleurs ? Est-ce que vous pouvez juste me dire comme ça ? D'accord, 3 personnes. Eh bien, de quoi s'agit-il ? C'est une fraternité de personnes qui ne vivent pas dans un monastère comme les fraternités qu'on connaît, mais qui vivent chacune chez soi. Vous pourriez être un veilleur, une veilleuse, et faire partie de cette communauté. Cette fraternité existe depuis 102 ans. Elle a été fondée en 1923 par le pasteur français Wilfred Monod, qui est le père du naturaliste Théodore Monod, également bien connu. Et c'est intéressant de voir que c'est une fraternité qui a quand même 100 ans. Donc on aurait pu se dire au début, oui, bon, ça va durer un moment de prier comme ça chez soi, puis les gens vont abandonner. Eh bien non. En quoi ça consiste d'être un veilleur ? Ça consiste à prier 3 fois par jour, matin, midi et soir, donc de s'aménager un temps de prière dans l'esprit des béatitudes. C'est une sorte de monastère invisible, en fait, de gens reliés, et de temps en temps, ils font une retraite ensemble. Donc il y a quelque chose quand même d'incarné, il y a une communauté qui se rend visible par moment, mais la majorité du temps, ce sont des gens qui ont un métier, une vie, mais qui se vivent comme frères, comme sœurs de cette fraternité invisible. C'est très intéressant, je trouve, parce que, en fait, au départ, Wilfred Monod était parti de la parole de Jésus, de sa prière, de ce qu'il dit à Gethsémané, à ses disciples, quelques heures avant d'être arrêté, « Veillez et priez ». Et qu'est-ce qui se passe? En fait, les disciples vont s'endormir et ne pas arriver à rester en veille. Veillez et priez. Donc, pour veiller, il nous faut prier. Ça va ensemble. Sur le site de la Fraternité spirituelle des Veilleurs, vous pourrez aller voir, on peut lire « Dans la prière, le plus difficile est de s'échapper du temps qui court, d'apprendre à veiller, de trouver sa montagne à l'écart des fascinations multiples et du vacarme qu'impose le monde, pour se tourner vers Dieu en solitude, pour ouvrir en soi l'espace de l'esprit. » Vous voyez cette discipline spirituelle de faire silence, de faire de la place, de se connecter. Leurs 3 mots d'ordre aux veilleurs dès le fondement de la fondation de cette fraternité, c'est joie, simplicité, miséricorde. Ça vous est peut-être familier parce que ça a été repris ensuite par Thésée et puis par toutes les communautés monastiques écuméniques. Aujourd'hui, la Fraternité des Veilleurs est devenue écuménique. Et dans ces 3 mots d'ordre qui résument l'esprit des béatitudes de Jésus en Matthieu 5, on peut vraiment sentir toute la profondeur de ce que c'est qu'être un veilleur. Dans la joie, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de vivre dans la joie de se savoir aimé de Dieu, profondément. Dans la joie de la bonne nouvelle de l'Évangile, qui n'a rien à voir avec les circonstances que l'on vit. Le monde peut s'écrouler, nous pouvons être dans la joie de savoir que Jésus est vivant, que Dieu nous aime infiniment et qu'il vient. Simplicité, c'est vivre de façon simple, de façon désencombrée du superflu. C'est vivre centré sur l'essentiel. En tant que chrétien, qu'est-ce que notre essentiel, si ce n'est le Seigneur, qui a tout dit, qui a tout accompli? Vivre centré sur cet essentiel. Et tout le reste, savoir le hiérarchiser. Et puis, la miséricorde, vivre dans la miséricorde reçue de Dieu. Dieu nous aime et nous pardonne, tout le temps. C'est le Dieu de la première chance, de la deuxième chance, de la troisième chance, de la millième chance. Une miséricorde qui ne tarit pas. Alors suis-je moi capable aussi de vivre de miséricorde en retour, d'aimer, de pardonner, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à 77 fois, 7 fois. C'est concret, la joie, la simplicité, la miséricorde. Nous pouvons cultiver ça dans notre cœur, avec ces trois axes. Si le Seigneur revient demain, eh bien, qu'il me retrouve dans la joie, dans la simplicité, dans la miséricorde, envers moi-même, envers mes frères et sœurs, envers lui. Alors j'aurai été vigilante, j'aurai été vivante, j'aurai été veillante, veilleuse. Et ce qui est important, c'est de tenir ces trois-là ensemble. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de dire, ben moi je choisis la joie. Allez, moi, c'est la joie, mon truc. Et je vis dans la joie. Je me sens aimée, j'ai de la joie. Mais si je suis dans la joie et que j'oublie la miséricorde, c'est pas complet. Si je suis juste dans la joie, mais que j'oublie la simplicité, à laquelle le monde et la planète nous appellent aujourd'hui, hein, simplicité, sobriété, il y a tout ça. Si je suis juste dans la joie de vivre, de gaspiller, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, si je suis tout le temps dans la miséricorde, mais sans joie, ça peut être triste à un moment donné. Donc vous voyez, c'est tenir ensemble ces trois axes. Et pour que ce soit concret, parce que ça m'a travaillé quand même cette question, et je remercie la personne qui me l'a posée, de comment je peux vivre concrètement ce temps de l'Avent, eh bien, pour que ce soit concret, ben, je vous propose de l'appliquer. Ce n'est pas tous les jours dans une prédication que je vous donne quelque chose de pratique à faire, mais je vous propose de l'appliquer en choisissant une faiblesse que vous avez, un combat personnel que vous menez, une difficulté que vous avez, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit psychique, qu'elle soit physique peut-être, un problème familial, professionnel. Vous avez tout de suite là le sujet qui vous vient, je suis sûre. Eh bien, pouvez-vous choisir de travailler ça, de porter ça en prière et de faire preuve de vigilance pour ne pas retomber systématiquement dans ce travers. De choisir de lutter avec l'aide du Seigneur de façon éveillée. Et on peut s'aider de ces trois critères, de la joie, de la simplicité, de la miséricorde dans notre, comment dire, lutte, dans notre combat. Par exemple, la joie. Est-ce que, malgré ce problème qui est le mien, qui me pèse, est-ce que je suis dans la joie? Au fait, quelle est la source de ma joie? Qu'est-ce qui nourrit la joie profonde en moi? Si c'est le Seigneur, si c'est le fait de se savoir, de le savoir vivant, si c'est le fait d'avoir compris qu'il s'est donné à la croix, qu'il est mort et ressuscité pour moi, et qu'il m'aime comme un précieux trésor, je peux traverser ce que je vis. Simplicité. Est-ce que, quand je réagis comme ça, est-ce que je suis centrée sur l'essentiel? Est-ce que je ne suis pas en train d'encombrer la relation, mon esprit, mes émotions, ma vie, d'un tas de considérations lourdes et inutiles? Est-ce que je suis bien en train d'essayer de vivre la simplicité? Je vais vous citer une citation de Calvin par rapport à son commentaire sur ce passage, sur le mot veiller. Ça nous dit quelque chose de cette attitude. Il dit « Par ce mot veiller est signifié ce soin continuel qui fait qu'ayant les esprits levés en haut, nous passions par ce monde comme voyageurs sans nous y arrêter. » Je me suis dit « C'est pas mal ça, pour la simplicité. » Le voyageur, il, normalement, j'imagine plutôt le voyageur sac à dos, parce que je sais que parmi nous, il y a des voyageurs valises, 4-5 valises en cabine, mais disons, le voyageur léger, il traverse le monde avec une acuité, une vigilance, il voit tout, il regarde tout, parce que probablement, il se dit « je ne repasserai pas ici, donc je prends tout ce que j'ai à vivre et je me déleste du superflu. » Voyez ? Simplicité. Et puis, miséricorde, est-ce que là, face à ce problème, est-ce que je fais preuve de pardon et d'amour ? Alors, souvent on se dit, mais évidemment, bien sûr, mais posons-nous quand même la question. Retravaillons, remettons l'ouvrage sur le métier. C'est ce que Paul dit, nous l'avons entendu dans Romains 13. Paul nous rappelle le commandement d'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et Paul nous dit cette magnifique phrase, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Est-ce que, quand le Seigneur viendra, je pourrai me présenter devant lui, revêtu d'amour, de miséricorde, revêtu de lui et de ce qu'il a fait pour moi ? Alors voilà, c'est ma proposition ce matin pour essayer de concrétiser notre état de veille en ce temps de l'Avent. Notre état de veille, notre état d'éveil, notre état de réveil, pour que notre attente, notre vie, soit tout sauf endormie et passive, sauf frivole et superficielle, sauf engourdie et alourdie. Laissons ça au monde. Soyons-nous vigilants, éveillés, réveillés. Et persévérons dans cette attente. Restons accrochés à l'espérance et la confiance en la promesse du Seigneur. Car le Seigneur nous l'a promis, il vient et il nous veut prêts. Alors soyons ces veilleurs, frères et sœurs, soyons ces sentinelles vigilantes, présentes à nous-mêmes, présentes aux autres, présente à Dieu, à sa présence, à son esprit, et que dans nos combats, qui sont parfois longs et difficiles, on puisse dire toujours avec espérance, « Maranatha, viens Seigneur, et ne tarde pas, je suis prêt. » Amen.